Bon courage et à très bientôt.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 4 janvier 2021. John Lydon à la présentation. Tout d'abord, les titres. En République centrafricaine, proclamation aujourd'hui des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Dans l'extrême nord du Cameroun, 3 membres d'un groupe d'autodéfense ont été tués par des combattants présumés de Boko Haram. Nous irons aussi à Boaké en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens réagissent au discours de nouvel an du président Alassane Ouattara. Julian Assange ne sera pas extradé aux États-Unis. La justice britannique a rejeté la demande de Washington, invoquant des raisons de santé mentale. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. En Centrafrique, 9 candidats à la présidentielle ont saisi l'autorité en charge des élections, l'ANE, ce lundi. Ils dénoncent une série de faits graves ayant entaché la transparence du scrutin du 27 décembre et notamment le recours massif au vote par dérogation via des certificats signés par l'ancienne présidente de l'ANE. Le vote par dérogation permet à un électeur d'aller voter dans une autre circonscription que la sienne et prévue par le code électoral dans des conditions très précises. L'agence chargée des élections doit proclamer aujourd'hui même les résultats du scrutin. Une enquête a été ouverte en Centrafrique pour faits de déstabilisation et des rébellions en cours contre l'ex-président François Bozizé, accusé par le pouvoir de mener une tentative de coup d'État à la tête de rebelles à l'occasion de l'élection présidentielle du 27 décembre. C'est ce qu'annonce ce lundi le procureur de la République de Bangui, Laurent Legandé. Monsieur Bozizé était rentré en Centrafrique un an avant les élections présidentielles et législatives du 27 décembre. Malgré des poursuites pour assassinat et torture durant ses 10 années à la tête du pays, soit de 2003 à 2013. Sa candidature à la présidentielle a été invalidée le 3 décembre par la Cour constitutionnelle, au motif notamment qu'il était sous le coup des sanctions de l'ONU. Au Niger, 100 personnes ont été tuées dans l'attaque de 2 villages dans l'ouest du pays. Le premier ministre Brégui Rafidi s'est rendu dimanche sur les lieux des attaques perpétrées samedi, a déploré un bilan désastreux, une situation horrible faisant état de 70 morts à Choma Bankou et une trentaine à Zaroumadaïré. La double attaque qui n'a pas été revendiquée a été perpétrée par des djihadistes venus à bord d'une centaine de motos. La France va très probablement réduire les effectifs de sa force Barkhane au Sahel après des succès militaires importants en 2020. L'annonce a été faite par la ministre française des Armées qui, par la même occasion, a dénoncé les méthodes pernicieuses des djihadistes après la mort des 5 soldats français au Mali. Nous serons très probablement amenés à ajuster ces dispositifs. Selon Florence Parly, une décision sera prise à l'occasion du prochain sommet conjoint de la France et des pays du G5 Sahel qui est prévu en février à N'Djamena au Tchad. Au Cameroun, 3 membres d'un groupe d'autodéfense ont été abattus par des combattants présumés de Boko Haram à Kaliari, dans l'extrême nord du pays. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
D'après Mahamat Chitima Abba, maire de Mozougou, auquel est rattaché Kaliari, les combattants djihadistes sont venus du Nigeria. Les personnes tuées étaient des civils chargés de fournir des renseignements ou servaient d'éclaireurs aux soldats. Les membres de Boko Haram et d'une branche dissidente, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ont multiplié ces dernières années les attaques contre les forces de sécurité et les civils dans l'extrême nord du Cameroun comme dans les pays voisins. 100 personnes ont été tuées ce week-end dans l'attaque de 2 villages dans l'ouest du Niger. L'insurrection de Boko Haram est née en 2009 dans le nord-est du Nigeria, avant de se propager au Cameroun, au Niger et au Tchad. Depuis, selon l'ONU, plus de 36 000 personnes ont été tuées et 3 millions ont dû fuir leur domicile.
Toujours au Cameroun, une trentaine d'opposants comparaissent ce lundi devant un tribunal militaire. Il s'agit des militants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, interpellés lors des marches du 22 septembre 2020 visant le départ du pouvoir du président Paul Biya. Au moins 11 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud-est du Tchad. Les affrontements se sont déroulés vendredi et samedi dans la province de Salamat. Les combats entre éleveurs et cultivateurs sont fréquents dans le sud du Tchad, où de nombreux habitants sont armés. Entre fin novembre et mi-décembre de l'an dernier, au moins 33 personnes ont été tuées dans ce type d'affrontements. Un jeune internaute algérien, partisan du mouvement de protestation AIRAC, a été condamné lundi à 3 ans de prison ferme pour avoir publié des contenus moquant le président Abdelmadjid Tebboune et de la religion, selon une ONG et un avocat. Walid Keshida est condamné malheureusement à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende. L'heure est très grave au moment où on s'attendait à sa libération aujourd'hui, voire même une relaxe, a déclaré Kassi Tanzouat, coordinateur du Comité national de libération des détenus, une association qui vient en aide aux prisonniers d'opinion en Algérie. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont repris dimanche leurs négociations au sujet du grand barrage sur le Nil, construit par Addis Abeba, et ont convenu de les poursuivre dans les prochaines semaines. Les derniers pourparlers, qui se sont tenus par visioconférence début novembre, s'étaient conclus sans avancée. Le Caire, mais aussi Khartoum, en aval du fleuve, souhaitent un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a demandé samedi aux responsables en charge des élections en Géorgie de trouver les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite dans l'État de Géorgie. Eric Manirakiza.
Le président américain, qui refuse toujours de concéder sa défaite à la présidentielle du 3 novembre, a tenté, lors d'une longue conversation téléphonique, de rallier à sa cause Brad Raffensperger, l'élu républicain en charge des élections dans l'État de Géorgie. « Il n'y a pas de mal à dire que vous avez recalculé », lui a-t-il déclaré, selon un enregistrement de la discussion rendu public par le Washington Post, puis d'autres médias. « Tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 bulletins parce que nous avons gagné cet État », a-t-il justifié, alors que la victoire du démocrate Joe Biden en Géorgie, avec environ 12 000 voix d'écart, a été confirmée par un recomptage et des audits. Invoquant des rumeurs de fraude, Donald Trump a jugé injuste que l'élection lui ait été volée. Brad Raffensperger, qui était accompagné d'un avocat de l'État, n'a pas cédé. « Nous pensons que nos chiffres sont bons », a-t-il rétorqué. Le collège électoral a déclaré le 14 décembre la victoire de Joe Biden avec 306 grands électeurs contre 232 au président sortant, un score qui doit être certifié mercredi au Congrès avant la prestation de serment le 20 janvier du 46e président des États-Unis.
Et puis Nancy Pelosi a été réélue dimanche à la présidence de la Chambre des représentants lors de la première séance de la nouvelle session du Congrès. À 80 ans, Mme Pelosi a été reconduite comme speaker pour les 2 ans à venir. L'élu de Californie a obtenu 216 voix contre 209 pour son rival républicain Kevin McCarthy. La justice britannique a rejeté lundi la demande d'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vers les États-Unis, qui le réclame pour la publication de centaines de milliers de documents confidentiels. Le point avec Abdourahmane Dia.
La juge Vanessa Barrett a invoqué un risque de suicide de l'Australien de 49 ans. Elle a rejeté les arguments relevant de la défense de la liberté d'expression, mais elle a estimé que les procédures décrites par les États-Unis ne vont pas l'empêcher de se suicider car il risque des conditions d'isolement quasi totales dans le système carcéral américain. Elle a donc refusé l'extradition pour des raisons de santé mentale. Les autorités américaines ont notifié le tribunal de leur intention de faire appel de la décision. Assange reste en détention avant une audience mercredi pour examiner une demande de mise en liberté. Dans la salle d'audience, l'avocate Stella Morris, avec qui Assange a eu 2 enfants pendant sa réclusion à l'ambassade d'Équateur à Londres, a fondu en larmes. À l'extérieur de la cour, le jugement a été accueilli par une explosion de joie par une trentaine de manifestants. Julian Assange risque 175 ans de prison aux États-Unis pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.
L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé ce lundi que l'Iran avait enclenché le processus destiné à produire de l'uranium enrichi à 20% à l'usine de Fordo, nouvelle violation de l'accord nucléaire signé en 2015. Le gouvernement iranien en avait fait l'annonce un peu plus tôt, quelques jours après en avoir informé l'AIEA. Téhéran marque ainsi sa volonté de revenir au niveau pratiqué avant l'accord de 2015, certes loin des 90% nécessaires pour une utilisation militaire, mais bien au-delà de ce à quoi le pays s'était engagé, soit 3,67%. Accusé par les États-Unis et Israël, ses ennemis jurés, la République islamique d'Iran a toujours nié vouloir se doter de l'arme atomique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Au Mali, l'entreprise parapublique L'Office du Niger a tenu sa dernière session à Niono, dans le centre du pays, le 31 décembre pour faire le point sur la campagne agricole 2020-2021 et a revu son budget à la hausse. Dans son discours d'ouverture, le PDG Abdelkarim Konaté a mis l'accent sur les inondations qui ont engendré une baisse de production de près de 13 tonnes par rapport à l'année précédente. Autre point critique, les quantités d'engrais subventionnées par l'Office du Niger n'ont couvert que 40% des besoins. Les autorités gabonaises ont prévu d'investir plus de 300 milliards de francs CFA d'ici 2023 pour améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité pour la population. L'annonce a été faite par Alain-Claude Bilibinzé, le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, qui a indiqué que cet effort est nécessaire à cause de la vétusté des équipements et de l'extension des zones d'habitation à Libreville et à l'intérieur du pays. Le principal distributeur de journaux au Cameroun met sa presse, met la clé sous la porte. Ses actionnaires ont décidé sa liquidation alors que l'entreprise perd de l'argent depuis 6 ans.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Nous sommes à moins de 2 semaines du match d'ouverture du CHAN, championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Mais en attendant, les équipes qualifiées poursuivent leur préparation. Dans un mini-tournoi à Yaoundé, le Cameroun a été contraint au match nul 1-1 par l'Ouganda. Match nul également 3-3 entre le Niger et la Zambie. Demain, le Cameroun fera face au Niger, mais avant, l'Ouganda jouera la Zambie. Mini-tournoi également de préparation dans la capitale rwandaise. Du 7 au 11 janvier, le Rwanda, la Namibie et le Congo vont s'affronter au stade Amaro de Kigali. La compétition s'ouvre le 16 janvier avec le match inaugural entre le Cameroun et le Zimbabwe. Toujours sur le continent, demain débutent les rencontres retour du deuxième tour préliminaire des matchs interclubs. En Ligue des Champions, l'AS Vita Club de Kinshasa reçoit les Young Buffaloes de l'Eswatini. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns offrent l'hospitalité aux Botswanais de Swaneng Galaxy. Et puis à Casablanca, le Raja reçoit Teguef du Sénégal. En Coupe CAF, les Burkinabés de Salitas vont essayer de confirmer leur victoire du match aller face aux Soudanais d'Alamal Abtara, tout comme les Sud-Africains d'Orlando Pirates face aux Angolais de Sagrada. De leur côté, les Nigériens de la Gendarmerie nationale vont essayer de limiter les dégâts à Alger face à la JS Kabylie. Le syndicat des joueurs uruguayens de football a accusé la Fédération anglaise de discrimination pour avoir accusé Edinson Cavani, l'attaquant de Manchester United, de racisme. Ce n'est pas seulement une personne qui a été condamnée, mais notre culture, notre mode de vie, c'est discriminatoire et raciste, a déclaré le syndicat. L'international uruguayen de 33 ans a été suspendu pour 3 rencontres après avoir écrit « Gracias Negrito, entendez merci petit noir » en réponse au message d'un ami le félicitant pour son doublé décisif face à Southampton 3-2 le 29 novembre. L'uruguayen dit avoir utilisé l'expression dans un sens affectif. Ici, en NBA, la star des Golden State Warriors, Stephen Curry, a inscrit 62 points la nuit dernière. Un record personnel qui a facilité la victoire des siens face à Portland, 137 à 122. Et puis, le règne solitaire du Phoenix au sommet de la conférence Ouest n'a pas duré longtemps. En battant les Suns 112 à 107, eh bien les Clippers les ont rejoints en tête en compagnie des Lakers vainqueurs 108-94. Des Grizzlies, les Brooklyn Nets ont subi une deuxième défaite durant leur quatrième cette saison.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, John Linden, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour, et on commence par la Côte d'Ivoire. Comme le suggère la tradition, de nombreux chefs d'État à travers le monde se sont adressés à leurs concitoyens à la faveur de la nouvelle année. En Côte d'Ivoire, le président nouvellement réélu, Alassane Ouattara, a livré un message dans lequel il dresse le bilan de l'année écoulée et dans les perspectives pour 2021. Les habitants de Boaké ont réagi à la suite de ce discours. Écoutons-les, ils sont au micro de notre correspondant Siriki Barreau.
Yannick Mori, habitant de Boaké. Franchement, c'est un discours qui a été bien lu. Le discours, nous avons beaucoup apprécié. Franchement, nous demandons au bon Dieu, tout ce qui a été dit par le président, que ce soit un vœu pour la nation, qu'il puisse continuer, n'est-ce pas, le travail qui a commencé, qu'on s'entend avec nos frères, qu'on s'entend avec tous les habitants de la Côte d'Ivoire.
Camara Malika, je pense que le discours du président a été un discours positif. Il a posé pas mal d'actions en faveur de la décrispation et de l'apaisement de la situation sociopolitique. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire parce que, en dépit de tous ces prisonniers qu'il a libérés, il y en a beaucoup encore dans les cellules de prison. Il y a de nombreux fils du pays qui sont en exil, notamment l'ancien président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, Blaise Goudé et autres. Je pense que s'il continue à jouer la carte de la réconciliation, il serait préférable de permettre à toutes ces personnes-là de revenir au pays et de libérer tous ces opposants qui croupissent en prison. Je pense qu'en posant ces actions-là, il aura fait beaucoup et ce sera pour le bonheur de tous les Ivoiriens.
Amara Kamara, le discours de présent, franchement, j'ai vu qu'il veut venir les Ivoiriens, son discours nous montre ça, et il veut essayer de terminer ce projet qu'il a commencé. Moi, ce que je souhaite, d'ici à Boaké, je vois qu'un peu, bon, il travaille, mais il a un peu oublié Boaké, notamment notre marché, avec les usines qu'il doit renouveler. Franchement, il n'a qu'à penser beaucoup à Boaké, parce qu'il reste beaucoup à faire.
Mariam Koulibaly, du discours du président, en tout cas, nous avons aimé, au fait, les promesses qu'il a faites, mais selon nous, au fait, il doit revoir encore, au fait, la situation de vie, quoi. Surtout au niveau des femmes de Boaké ici, c'est un peu difficile pour nous. Selon ce qu'on vit actuellement, en tout cas, c'est un peu difficile. On prie Dieu pour que la situation change. Il n'a qu'à essayer d'améliorer les choses.
Restez penchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Niger, les résultats du premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier sont connus. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bassoum, est arrivé premier avec 39%, suivi de Mahamane Ousmane qui obtient 17% des suffrages. Le coup chaos promis par les partisans de Bassoum ne s'est donc pas produit. Ils seront départagés en février prochain lors d'un second tour. Pour analyser ces résultats et le processus électoral, notre correspondant au Niger a interrogé le journaliste analyste politique Moussa Nagano, directeur de publication du journal Le Patriote à Niamey.
Et il va falloir d'abord dire un mot sur le processus ayant conduit à ces résultats. Je pense qu'il y a eu un bon acquis du fait que le chef de l'État sortant, Issou Mamadou, a promis déjà de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Ça, c'est un acquis. Et autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut déplorer un peu le comportement de l'opposition qui ne s'est pas beaucoup mobilisée pour réaliser l'alternance politique et démocratique, surtout promis par le chef de l'État. Parce que pendant ce temps, vous avez remarqué qu'au Niger, l'opposition s'est manifestée par un refus de prendre part au débat, un refus de prendre part aux travaux du Conseil national de dialogue politique, un refus de prendre, d'occuper ses places au sein des institutions électorales comme la Commission électorale nationale indépendante. Au cours de la campagne, maintenant, elle a été marquée par une focalisation un peu du débat politique sur un candidat, sur un adversaire, en l'occurrence Bazou Mohamed, le candidat de la majorité au pouvoir du PNDS Taria. Les résultats que nous avons, surtout par rapport aux législatives, montrent une sorte de déferlante rouge au niveau du Parlement. Le coup chaos tant chanté a été quand même réalisé au niveau de législatif, même si au niveau de la présidentielle ça n'a pas été le cas, mais 39% c'est quand même beaucoup, et ça montre aussi l'échec du coup chaos, c'est-à-dire l'élection d'un candidat dès le premier tour, montre que les bases sociologiques, politiques et des partis politiques ne sont pas encore totalement démantelés. Il y a la notion de fief des partis politiques qui tiennent beaucoup. Chaque parti a son fief et ces fiefs-là ne sont pas démantelés malgré tout ce qu'on dit par rapport au débauchage, à la fraude, au nomadisme politique. La suite, c'est que sur la campagne risque d'être marquée non pas par l'étalage d'un marché des idées, mais sur la base des idées très basses, notamment sur l'origine de Bazoum, qui a d'ailleurs marqué la première campagne législative, le premier tour de la présidentielle.
Moussa Nagano, directeur des publications du journal Le Patriote à Niamey. RDC, le TREPAT, le Centre de recherche en phytothérapie pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique, a procédé à la présentation des résultats de ces recherches qui ont abouti à la mise en place de Dubase C, un médicament antiviral qui soigne le COVID-19 en plus ou moins 48 heures selon les chercheurs. De Kinshasa, la correspondance de Yamba Valdo.
Le Dubase C est le résultat des 33 ans de recherche du Centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique mené en 3 étapes dans 3 pays différents, à savoir la RDC, les États-Unis et l'Afrique du Sud, homologué il y a 3 ans pour les traitements de VIH, dont la similitude a poussé les recherches à la lutte contre la COVID-19. C'est un produit à base des plantes médicinales congolaises. Constantin Bachengezi en est l'inventeur.
Dubase C, c'est un médicament à base de plantes médicinales qu'on trouve au Congo. Il est fait de 2 extraits dérivés de 2 plantes, et chaque extrait a un rôle particulier qu'il joue contre les virus, puisque Dubase C est réputé un antiviral à large spectre, donc un antiviral général.
Dubase C est donc le produit de la richesse de la biodiversité congolaise qui ne peut que satisfaire les autorités de la RDC, Claude Niamugabo, et les ministres de l'Environnement.
Ces médicaments sont produits sur base de nos produits végétaux congolais. Ils ont dit qu'il y a des produits qui n'existent qu'en République démocratique du Congo. Et donc moi, en tant que ministre de l'Environnement, je voudrais rassurer nos chercheurs que nous allons tout mettre en œuvre pour les protéger et protéger également ces produits qui n'existent qu'en République démocratique du Congo.
Les traitements administrés aux différents patients ont étalé l'efficacité du Dubase C dans sa capacité à faire disparaître les symptômes de la COVID-19 selon les pharmaciens Constantin Bachengezi.
Avec Dubase C, les symptômes, les signes qui accompagnent la maladie disparaissent en l'espace de 24 à 48 heures. Ce qui fait que, avec Dubase C, il n'y a pas de raison de maintenir les malades dans l'hôpital pendant 2 semaines. On déchargerait les hôpitaux. Les hôpitaux ne seraient pas surchargés de malades. En l'espace de 24 heures, 48 heures, les symptômes tombent.
Ces chercheurs congolais avancent qu'entre 3 à 5 jours, la sérologie du patient revient négative et ces derniers peuvent reprendre ses activités socio-professionnelles. Pour Lamine Zouzou José, doyen de la faculté des sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa, Kinshasa et conseiller du chef de l'État au collège éducation et recherche scientifique d'Oubase C représente
les sciences pharmaceutiques au service de la société, de l'humanité. Les pharmaciens au service de la société, de l'humanité. Et en tant que pharmacien, je suis fier de ce travail scientifique qui a trouvé toutes les évidences pour la guérison de maladies antivirales, dont notamment la COVID-19.
Pour des raisons bien évidentes, les centres de recherche CREPAT proposent le Oubase C pour un usage hospitalier, explique les pharmaciens Bashengezi.
Étant donné que nous sommes face à une infection aiguë, nous évitons que les malades ne puissent manipuler le produit de manière maladroite. C'est ainsi que nous les proposons pour un usage hospitalier. Nous évitons l'automédication.
Pour les traitements de la COVID-19, une petite boîte comprenant 45 comprimés de Oubase C est proposée par les centres de recherche CREPAT. À ces jours, la RDC compte 18 101 cas de COVID-19, dont 14 716 guéris et 596 décès. De Kinshasa, Val de Simoyamba pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Le Zimbabwe a réintroduit un couvre-feu du crépuscule à l'aube pour contenir l'augmentation des cas de COVID-19 et lutter contre le non-respect par les citoyens des mesures barrières. L'Organisation mondiale de la santé appelle les Zimbabwéens à respecter la nouvelle réglementation. Les experts en santé publique et les commerçants du secteur informel sont préoccupés par ces mesures. C'est un reportage de Columbus Mavunga à Harare. Le récit est signé Eric Manirakiza.
En annonçant le couvre-feu de 2h samedi soir à la télévision nationale, le vice-président Constantino Chiwenga a déclaré que le gouvernement était préoccupé par l'aggravation de la pandémie de coronavirus au Zimbabwe.
We have seen the number of COVID-19 cases and deaths almost double in 2 months.
Nous avons vu une augmentation des cas et des décès de COVID-19, presque le double en 2 mois, passant de 8374 le 1er novembre à 14084 à ce jour. À la lumière de la récente flambée des cas, les mesures de verrouillage strictes suivantes sont mises en place avec effet immédiat.
Outre le couvre-feu, les autorités ont aussi instauré une limitation à 30 du nombre de personnes prenant part aux funérailles, tandis que tous les autres rassemblements lors de mariages et dans les églises, bars, magasins de liqueurs, gymnases et restaurants sont interdits. Chiwenga, qui est aussi ministre de la Santé, promet un examen de ces nouvelles mesures dans 30 jours. Les acteurs du secteur informel de l'économie sont plutôt pessimistes quant à l'efficacité de ces mesures. Sam Wanzai dirige un groupe de vendeurs pour la transformation économique au Zimbabwe.
Il est clair que le gouvernement n'a pas tiré les leçons du premier verrouillage où en mars 2020, il avait annoncé l'existence d'un fonds d'amortissement qui n'a pas profité à la majorité des commerçants du secteur informel. Dans les rares cas où les vendeurs du secteur informel recevaient ces allocations, la valeur avait beaucoup chuté à cause de l'inflation. Des mesures de verrouillage devraient être mises en œuvre parallèlement à l'introduction de régimes de protection sociale appropriés pour protéger les personnes vulnérables de notre société. Sinon, il sera très très difficile que ces mesures soient respectées.
Le docteur Pamela Magande, présidente de l'Association des médecins du secteur public du Zimbabwe, affirme que ces verrouillages devraient être accompagnés d'équipements modernes des hôpitaux avec des médicaments.
Il est en fait difficile de travailler dans les hôpitaux, car il n'y a rien avec quoi travailler. Tout le monde doit être amené à la table parce que le cantonnement à lui seul ne fait que retarder l'inévitable. Nous sortirons du cantonnement et nous aurons à nouveau des contaminations et nous reviendrons à la case départ.
Le docteur Alex Gasasira dirige le bureau de l'OMS au Zimbabwe. Il estime que les citoyens doivent adopter ces nouvelles mesures afin que le pays puisse contenir la propagation du virus.
If we as individuals play our role,
si nous, en tant qu'individus, jouons notre rôle à notre niveau individuel, dans nos foyers, dans nos communautés, cela complétera les mesures que le gouvernement a mises en place et permettra d'atteindre l'objectif de réduction de la transmission en peu de temps.
In Zimbabwe in a short time.
Selon lui, l'hygiène personnelle, le port du masque facial et la distance sociale ne sont quelques-unes des mesures que les Zimbabwéens peuvent mettre en œuvre pour la réussite des nouvelles initiatives. Par ailleurs, la police zimbabwéenne a annoncé l'arrestation de plus de 2000 personnes pendant le week-end du Nouvel An pour avoir bafoué les règles imposées depuis le mois de mars dans tout le pays.
C'est la fin de ce journal. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagno et Joselle Morissin. À la présentation de John Linden, édition en chef Idriss Pal. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.